Nous voici dans l'histoire de France.
Et pas seulement dans l'histoire de France.
La Bourgogne, royaume inachevé.
Bourgogne a trop à faire avec ses principautés qu'il convoite, celles qui lui permettraient de relier les deux morceaux de ce qu'il prend pour un État. D'un côté, la Flandre, le Brabant et tout ce qui va avec. De l'autre, les deux Bourgognes. Celle du duché qui est en France, celle du comté qui est en Empire. S'il pouvait mettre la main sur la Lorraine, croyez-moi, cela le tracasse plus que ce qui va arriver à Paris et ce qui se passe à mon conseil.
C'était, comment dire, un complexe multiterritorial, avec entre France et Empire un pôle au sud, Besançon, Dole, Dijon, Chalon, et un pôle au nord, Lille et Arras, Anvers, Bruges, Malines, Bruxelles. La famille du duc allait de l'un à l'autre avec l'obligation de naître et de se faire enterrer au sud. Il n'y a guère que Charles le Téméraire, le dernier duc, celui de la fuite en avant, à avoir prétendu souder les deux pôles et imaginer leur donner une capitale fixe qui aurait été à mi-chemin, Nancy, au pied de laquelle il va trouver la mort en 1477. Les ducs avaient trop longtemps été tournés vers la France pour que leurs sujets des terres du Nord n'en soient pas restés froissés. D'un espace aux identités si différentes, voire contradictoires, il était de toute façon bien difficile de faire un corps politique qui aurait pu s'unir mystiquement à un souverain. L'étonnante trajectoire des grands ducs d'Occident a en outre été trop courte pour forger autour d'eux des fidélités inoxydables. Le dernier d'entre eux, Charles le Téméraire, était un peu seul dans son rêve de ceindre une couronne royale. Sa conduite, à marche forcée, effrayait ceux qui l'entouraient. Dans les dernières années décisives, il a manqué à la Bourgogne, non seulement la continuité territoriale, mais le sens du temps et peut-être une conception de la chose publique qui ne bascule pas dans le pouvoir absolu et qui aurait pu la rendre plus désirable que la monarchie française.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Élodie Lecuppre Desjardins, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun, bonjour à tous.
Qui publie un livre très stimulant, très original, un pavé dans la mare à bien des égards, c'est chez Belin. Le royaume inachevé des ducs de Bourgogne. Vous enseignez à Lille et vous avez à vos côtés, et même presque au-dessus de vous, un grand maître en études bourguignonnes qui s'appelle Roland Schnerbe, qui a publié un livre qui s'appelle L'État bourguignon. Et il paraît que vous jouez à fleuret moucheté devant les étudiants de Lille, qui sont tous donc des bourgognons puisqu'ils sont à Lille.
Ils sont à Lille, en effet, et ils ont la chance, et ils s'en délectent d'ailleurs, d'être au cœur d'une polémique historiographique, puisque Bertrand Schnerb m'a accueilli à Lille 3, et qu'il est l'auteur, en effet, de l'État bourguignon, et que moi, dans cet aidé, longtemps, j'ai expliqué aux étudiants qu'il ne s'agissait pas d'un État.
Mais on l'appelle comment ?
On l'appelle la Grande Principauté de Bourgogne, plus aisément, me semble-t-il. Il n'a pas de nom, les seigneurs, seigneuries, à l'époque, et la puissance, c'est dans l'accumulation des titres.
On va donner juste les noms des quatre ducs valois de Bourgogne. On n'a pas besoin d'aller jusqu'à 19, comme pour les Louis de France, afin que nos auditeurs les aient en tête. Philippe Le Hardy.
Oui, c'est une aventure politique qui commence en effet avec Philippe Le Hardy, fils de Jean II le Bon, frère de Charles V. Son fils, Jean sans peur, le prince maudit, prince assassin et prince assassiné en 1419, Philippe Le Bon, son héritier, qui a donné la grande configuration bourguignonne que l'on connaît. Et enfin, Charles le Téméraire, que vous avez déjà mentionné.
Alors c'est important de voir cette filiation royale, parce que je vous propose qu'on commence par le point de vue du roi de France. Alors, dans le point de vue du roi de France, il y a de la propagande. Dans le point de vue du duc de Bourgogne,
il y en a aussi.
Il y en a aussi, vous l'expliquez, à satiété. Ceci, c'est un extrait, dans les lundis de l'histoire de France Culture, de la chronique du religieux de Saint-Denis, qui narre la vie de Charles VI. Alors, le roi Charles VI, à entendre la chronique du religieux, il est beau, il est grand, poilu, robuste. En fait, il est déjà complètement
à l'ouest. C'est important de le présenter comme un homme fort.
Voilà, l'harmonie du corps dit l'équilibre du gouvernement.
Parfaitement.
Alors, comment le roi voit-il le rapport que le duc de Bourgogne, son parent, doit entretenir avec lui ?
Monseigneur de Bourgogne est bon catholique et loyal prud'homme. Il est prochain du roi. Il est donc tenu de l'aimer comme son prochain et d'éviter de lui faire offense. Le duc de Bourgogne est-il obligé à garder, défendre et venger le roi de toutes injures selon son pouvoir ? Le duc aura en son cœur en mémoire les obligations qui sont 12 en nombre, c'est à savoir prochain, parent, vassal, sujet, baron, comte, duc, pair, duc et pair, doyen des pairs. Ce sont 12 obligations par lesquelles il est obligé de le servir, obéir et porter révérence, honneur et obéissance, le défendre de tous ses ennemis, et non seulement défendre, mais le venger et en prendre vengeance.
Là, il est prochain parce qu'il est parent, c'est la filiation avec la royauté française qui exige que le duc ne trouve pas de plus grand honneur que celui de servir le roi.
Les ducs, en effet, Philippe le Hardi, Jean sans peur et Philippe le Bon, sont des princes du royaume de France et s'affichent comme tels. Lorsque Philippe le Hardi reçoit des mains de son père, Jean de Lebon, le duché de Bourgogne, donc la région de Dijon, il devient duc de Bourgogne et pair de France. Et il s'installe, non pas dans un apanage, mais dans un fief à proximité finalement du royaume. Les premiers ducs, d'ailleurs, Philippe le Hardi et Jean sans peur, sont plus souvent à Paris qu'ailleurs.
Ce sont des ducs des Fleurs de Lys.
Ce sont des ducs des Fleurs de Lys de la branche Lilligère, comme on le lit dans les chroniques, la belle branche Lilligère de France. Donc ce sont des princes de la maison de France. Et Jean sans peur, lorsqu'il s'oppose à son cousin d'Orléans, ne souhaite pas faire autre chose finalement que de répondre aux critères qui ont été développés par le religieux de Saint-Denis, à savoir protéger le roi.
Et quand on le dit rebelle au roi, lui il explique qu'il est le sauveteur de la
Il est le sauveteur de la royauté et de la tête couronnée.
Rien à voir avec un duc de Bretagne.
Rien à voir avec un duc de Bretagne qui, très précocement, s'installe à bonne distance du royaume de France en expliquant qu'il y a une unité dans le duché de Bretagne et que ce duché de Bretagne n'est pas le fruit d'un démantèlement du royaume, mais bien le résultat, l'avatar d'un royaume de Bretagne. Un duc de Bretagne qui a bien conscience de son indépendance et qui ne souhaite pas devenir un pair de France.
Mais un peu à voir avec le duc de Bourbon, dont un autre historien, Olivier Matteoni, a raconté comment, pendant la même période, il essayait d'installer un ensemble d'institutions au service d'une communauté historique qui était en train de se construire, des institutions financières, des institutions judiciaires.
Les fils de Jean de Lebon, les frères de Charles V, vont importer dans leur territoire des institutions françaises. Et de la même manière, Philippe le Hardi va mettre en place les fameuses chambres des comptes. Il existait une chambre des comptes en Flandre, les Renenge, mais sur le modèle de France, l'institution va s'organiser, se structurer, se montrer beaucoup plus efficace. Donc, en matière artistique, en matière financière, en matière de justice, les ducs vont importer un modèle français dans leur territoire.
On est au sein d'une famille. Une affaire menée à une dizaine d'années de distance par un procureur de Dijon qui s'appelle Rabustel. Alors, première affaire, il y a une troupe de théâtre qui joue une farce qui met en cause l'honneur du roi Charles VII.
Nous sommes ici en effet quelques années plus tard.
Et la deuxième affaire, que je vais vous faire le rapprochement,
oui.
Met en cause un tenancier de bordel de Dijon qui s'appelle Dédé la Saumure, non?
Non, il s'appelle pas Dédé la Saumure.
Ça c'est à Lille, oui.
Ça c'est à Lille.
Pardon, c'est chez vous. Il s'appelle Jaco de la Mer.
Jaco de la Mer, en effet.
Et lui met en cause, en fait, par son comportement, le duc de Bourgogne. Alors, dans la justice, la pitié, c'est pour Jaco de la Mer ou c'est pour la méchante troupe de théâtre qui lèse la majesté du roi?
Alors, nous sommes ici, en effet, un peu plus loin dans le temps, puisqu'on est dans les années 1440, et nous sommes dans un territoire donc éclaté. Le duc est principalement au nord, il s'occupe des affaires au nord, et une véritable mafia va gangréner la capitale du duché de Bourgogne. Je dis bien le duché de Bourgogne, pas la grande principauté. Et tout cela, finalement, en toute impunité, puisqu'ils sont infiltrés dans la magistrature,
ils ont pignon sur rue. la tête des coquillards.
Ils sont en effet à la tête des coquillards avec une langue particulière, un argot qui se met en place. Et donc c'est Rabustel qui va lever le lièvre et qui va prendre cette affaire à bras le corps.
C'est intolérable, ça, pour un duc de
Bourgogne. C'est intolérable, mais apparemment ça le gêne de loin en loin, on va dire. Et en revanche, en effet, quand cette troupe de théâtre va représenter une scène qui insulte, entre guillemets, la majesté royale, là, l'accent judiciaire se fait beaucoup plus grave.
Alors que c'est l'affaire d'un coup.
Que c'est l'affaire d'un coup, en effet. Mais là aussi, dans cette population dijonnaise, la majesté royale est très puissante.
Alors les membres des chambres des comptes, les procureurs de justice, il y a tout un ensemble d'officiers, de grands notables, avec à leur tête un chancelier qui sont à la cour de Bourgogne. Ces gens, ils ont conscience de construire un État ?
Alors voilà, vous appuyez là où ça fait mal, si j'ose dire. C'est-à-dire que ces gens avaient-ils en effet conscience de construire un État ou d'œuvrer simplement pour le service de leur prince ? Nous avons, de manière tangible, des institutions qui pourraient nous faire pencher vers l'existence d'un État avec des officiers, comme vous l'avez dit, des chambres des comptes, des chambres de justice, toute une infrastructure. Mais pour reprendre cette fois-ci les mots d'un historien du droit comme Albert Rigaudière, l'État n'est pas seulement une somme d'infrastructures, mais c'est une question qui s'adresse aussi à l'ordre de l'esprit. Est-ce que ces hommes avaient la conscience de vrai pour un État ? Et c'est ce que j'ai voulu expliquer dans ce livre, c'est-à-dire non pas faire l'histoire d'une perfection croissante, mais l'histoire des possibles et des impossibles à hauteur d'homme.
1430, c'est la création de l'ordre de la Toison d'Or à Bruges, à l'occasion du mariage de Philippe le Bon avec une demoiselle de la cour du Portugal. Ça a laissé un très fort souvenir dans la mémoire. Jean-Philippe Lecat. Tiens, vous n'avez pas cité Jean-Philippe Lecat, l'ancien ministre de Giscard, ni non plus Jean-Pierre Soissons, l'ancien ministre de Giscard.
Il est vrai qu'ils n'apparaissent pas dans la bibliographie, ça ne veut pas dire que je ne les ai pas lus.
Et Jean-Philippe Lecat, lui, il se prenait peut-être pour une réminiscence du duc, et en tout cas, il a consacré à la Bourgogne une grande série télévisée en 88, et voici ce qu'il dit de la Toison d'Or.
Le duc groupe une élite de nobles de tous ses états, les chevaliers de la Toison d'Or.
Sire, nous, nos frères et compagnons de l'ordre, nous vous avons élus à être perpétuellement, si Dieu plaît, frères et compagnons de la Toison d'Or. Dieu veuille que vous puissiez le porter longuement. À son honneur, à ses services, à l'exaltation de l'Église catholique, à l'accroissement, à l'honneur de l'ordre, de vos renommées et mérites.
Alors là, vous dites, Élodie Lecuypre des Jardins, pas trop d'emphase. Parce que, bon, la Légion d'honneur, on sait que ça sert parfois à décorer le prince héritier d'Arabie Saoudite, mais en principe, ça sert à la cohésion de la nation. Bah, la Toison d'Or, ça sert surtout à décorer des dignitaires étrangers, plus encore que des nobles ou des serviteurs bourguignons, et c'est une affaire de symbole et de propagande. Peut-être pas davantage.
C'est une affaire de symbole, de propagande, mais il ne faut pas oublier néanmoins que cet ordre est mis en place pour la défense de la foi catholique et de la chose publique.
Ah, c'est une affaire religieuse.
Donc c'est une affaire religieuse. Les ducs de Bourgogne sont... Il n'y a pas de chapitre dédié à l'Église dans cet ouvrage, mais les ducs de Bourgogne sont des princes catholiques qui ont à cœur de défendre les terres du lointain Orient. Et Jean sans peur s'était déjà illustré à la bataille de Nicopolis, et Philippe le Bon renoue avec l'idéal de croisade qui s'illustre notamment dans les esprits avec le fameux banquet du faisan de 1454. Mais néanmoins, l'ordre de la Toison d'Or, donc qui là aussi s'inscrit dans une habitude culturelle, il ne faut pas oublier l'ordre de l'étoile qui lui a précédé du côté du royaume de France, l'ordre de la Jarretière et l'ordre de l'Arbre d'Or que Philippe Lardy voulait également également mettre en place. Donc, une habitude culturelle chevaleresque et la volonté donc de rassembler autour du prince son élite nobiliaire au cours de chapitres qui ont lieu dans les différentes villes de cette grande principauté de manière itinérante, bien sûr.
Et la cour est connue pour son faste, sa magnificence, ses banquets. Vous en avez cité l'un d'entre eux. Ils ont été extrêmement nombreux par sa musique. C'est quand même un berceau de la musique écrite savante, la Bourgogne.
La Bourgogne, il ne faut pas l'oublier, on parle toujours de la Renaissance italienne, mais il faut aussi évoquer la Renaissance au nord et la polyphonie.
Jouissance vous donnerait, c'est un air de Toineau Arbaud, avec l'ensemble L'Amorache.
De l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Autour d'un livre qui vient de paraître chez Belin, Le royaume inachevé des ducs de Bourgogne. Élodie, le Cupre des Jardins, l'histoire de France aurait pu être radicalement haute si les grandes principautés territoriales, ou du moins certaines d'entre elles, avaient pu se constituer en État. Un État, c'est pas nécessairement une nation. Il n'y a pas de nation bourguignonne.
Non, il n'y a pas de nation.
Vous employez des drôles de mots. Vous dites que les ducs utilisent une propagande multimédia, mais que l'opinion n'est pas nécessairement convaincue qu'il y a une nation. L'opinion. Je sais qu'il y a des placards sur les portes des villes, mais...
L'opinion, bah écoutez, depuis les brillants travaux de Bernard Guenet, je n'ai pas de problème pour employer ce terme. La propagande est en effet multimédia. Bon, c'est un terme qui peut être iconoclaste, mais quand on voit qu'un thème identique peut être décliné par les chansons, les placards, les scénettes, les tableaux vivants, le bruissement de la rumeur, etc., on voit en effet une orchestration de la nouvelle, de l'information et des messages que l'on veut faire passer. Quant à l'État, en effet, c'est toute la question de ce livre. L'État n'est pas forcément une nation. On ne peut pas parler de nation bourguignonne, parce que pour parler de nation, il faut parler d'une communauté imaginée. Et quoi de commun entre un drapier gantois et un vigneron dijonnais ?
Bah si, le vin...
Le vin qui circule, peut-être, oui. Mais nous sommes dans des territoires où l'on boit essentiellement de la bière.
Ah,
au nord.
Nous allons de déception en déception. Je parle là au nom des Bourguignons qui veulent constituer
mais le vin
nation.
Circule, rassurez-vous.
On va arriver au moment décisif, le troisième quart du XVe siècle. Le règne de Philippe le Bon est très long. C'est Philippe le Long, il commence son règne en 1419. Ici, nous sommes vers la fin du règne, dans la séquence qui va être évoqué par La longue chasse du roi Louis, un téléfilm de Jean-Claude Carrière. Il y a une sombre histoire, un bruissement de rumeurs, un bâtard de Rubempré. Qu'est-ce que c'est ça?
Alors, si en effet c'est le bâtard de Rubempré,
Moment où le bâtard de Rubempré.
C'est une rumeur, justement.
Vient
qui
chercher
circule,
des coups dans la tête de.
Il est question,
Charles
en effet,
le Téméraire,
d'un bâtard...
le dauphin de. De Philippe.
Charles le Téméraire, alias donc Charles de Charolais, puisqu'il n'est pas encore duc, estime que l'arrivée de ce bâtard est assez soupçonneuse et que ce bâtard est en fait venu l'assassiner sur les ordres de Louis XI.
Qu'on veut l'assassiner, hein, Charles, c'est un leitmotiv.
C'est assez récurrent.
Alors Philippe le Bon, lui, prend les choses avec davantage de sérénité. Voici comment il le reçoit. L'envoyé du roi de France, le chancelier de France venu tout exprès.
Je n'ai jamais fait d'accroc à l'honneur de personne que je n'ai su réparer, sauf pour celui des demoiselles. Y a-t-il quelque autre requête?
L'exigence du roi, au duc.
Le duc a fait couronner le roi.
Pour qu'il soit roi. Il l'est, et il le dit.
Bien fort.
Comme un roi doit dire.
Lorsque dauphin, il fuyait son père, je l'ai recueilli chez moi et nourri chez moi. Mais aujourd'hui, il met mon propre fils au rang de ses ennemis.
C'est que votre fils, monseigneur, a choisi de se mettre dans leur panier.
Ô chancelier, vous ne faites que venir. On ne peut tout trancher sur l'heure.
Il ne faut pas si longtemps, monseigneur, pour donner les ordres qui satisferont le roi.
Chancelier, je suis malade de l'incurable maladie de vieillesse et vous me bourrez les côtes en criant « Hu, hu ». Je ne donnerai aucun ordre. Fût-ce pour l'amour du roi que je n'ai entendu mon fils. Qu'on apporte du vin. Ce sera notre première caresse aux ambassadeurs de notre cher Louis. Qu'il nous garde en sa bonne grâce. Les princes d'Occident ont mieux à faire que se déchirer entre eux. Le Turc a pris Constantinople. Et nous avons juré sur le faisant de l'en déloger.
Toujours le thème de Constantinople.
Toujours le thème de Constantinople, un extrait extrêmement riche. Et vous aurez remarqué qu'il est question d'une petite phrase. Hein. J'ai porté la couronne sur la tête de Louis XI. En effet, c'est Philippe le Bon en 1461.
Donc vous aurez remarqué qu'il est interprété par Louis Arbessier.
Louis Arbessier. C'est Philippe le Bon qui, en 1461, pose la couronne en tant que doyen des pairs et qui sent son heure revenue. Hein, il pavane dans Paris en estimant qu'il va retrouver sa place auprès du conseil du roi, dans le giron de la maison de France, mais évidemment il n'en est rien. Louis XI n'a pas du tout l'intention de gouverner avec l'oncle qu'il avait pourtant reçu lors de son exil à Jemappes et dans la région de Bruxelles.
Donc il reporte son ambition sur la Bourgogne, mais il la reporte avec prudence. On ne peut tout trancher sur l'heure.
On ne peut tout trancher sur l'heure. Donc Philippe le Bon est connu justement pour son caractère bonhomme, sa bienveillance, ses largesses.
Vous avez remarqué qu'il offre du vin.
Il offre du
et
vin.
Pas de la bière. Donc, hein,
Philippe le Bon. Mais quand je dis on boit de la bière dans la population, mais on boit du vin de Beaune et du Rhin à la cour, bien évidemment. Et donc Philippe le Bon est connu pour cette bonhomie et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'arrivée de Charles de Charolais, Charles le Téméraire, va brusquer les habitudes de cour. Donc c'est l'affaire du bâtard de Rubempré, mais c'est aussi la Ligue du bien public qui se met en branle en 1465 et qui met en péril Louis XI.
Parce que ce Charles le Téméraire, qui devient vraiment duc en 1465, avant même la mort de son père très diminué, il est aigre dans ses pensées et aigu dans sa parole. Et alors, le voilà qui se met en tête de recoudre le duché, de remplir les trous, de conquérir les enclaves, et notamment la malheureuse principauté épiscopale de Liège, qui évidemment n'est pas du tout contente de la violence qui lui est faite. C'est peu après, en 1468, qu'a lieu ce qu'on appelle l'entrevue, vous vous dites l'épisode de Péronne. Vous remarquerez que c'est Jean-Louis Barrault qui interprète Louis XI venu en visite dans les villes de la Somme chez Charles le Téméraire, qui est, je vous le donne en mille, Roger Hanin.
Sire, je tiens à vous remercier de l'honneur que vous nous faites. À nous et à notre bonne ville de Péronne, et j'y suis heureux d'y souhaiter la bienvenue à votre majesté.
Je vous remercie, mon cousin.
Que votre majesté daigne m'excuser. Un courrier arrive à l'instant de Liège.
J'ai pris sur moi de galoper vers vous sans débrider. Car les Liégeois se sont révoltés. Ils ont massacré votre garnison.
Pourquoi cette émeute?
On affirme que les rebelles obéissent aux ordres du roi. Ils criaient « Vive le roi !» et « Mort au duc de Bourgogne !»
Trahison, mon cousin.
Ah, vous m'ôtez le mot de la bouche.
Ce sont mes ennemis qui en veulent à notre bonne entente.
Ne parlez plus jamais de notre bonne entente! Jamais je ne vous aurais cru capable d'une telle perfidie. Mais elle est indigne d'un roi! Elle mérite le plus dur châtiment!
Eh bien! Porterez-vous la main sur votre hôte? Sur votre roi? J'ai eu l'intention de soulever vos sujets contre vous, ce qu'à Dieu ne plaise, j'aurais au moins attendu d'être hors d'atteinte pour le faire. Me prenez-vous pour un fou?
Au contraire, c'est là votre calcul précisément. Vous avez dit que jamais je ne pourrais vous croire coupable puisque vous vous livriez à moi. Me prenez-vous pour un bonnet!
À Louis XI piégé, Charles le Téméraire va essayer d'arracher une concession de taille. la possibilité que les affaires de justice soient jugées en appel sur le territoire de la Grande Principauté, au Parlement, non pas de Paris, mais de Malines. Et ça, c'est décisif.
Alors, c'est décisif. L'entrevue de Péronne est très funeste hein, pour Louis XI, qui a pris de gros risques en s'avançant dans les mailles du filet de Charles le Téméraire. Hein. Il va le traîner jusqu'à Liège, d'ailleurs. Et à partir de l'entrevue de Péronne, la fracture est consommée. Donc Charles le Téméraire veut récupérer les villes de la Somme dans un premier temps. Ensuite, évidemment, Louis XI reviendra sur sa parole en expliquant qu'il avait été contraint à ce moment-là. Mais là, c'est la fuite en avant qui commence. Et donc, le véritable acte, en effet, de souveraineté de Charles le Téméraire, donc la rupture consommée, c'est la mise en place du Parlement de Malines, puisque la souveraineté, elle est ici judiciaire, hein, évidemment. Donc là, les sujets de Charles ne font plus appel au roi, mais à lui directement à partir donc de 1473. Donc
ça, c'est un acte ouvertement essentiel. De la couronne
royale.
Et il rêve
de la couronne, d'une couronne, et... laquelle oui. Il lui faut une couronne.
Et pas seulement un chapeau borné de médailles. Et Nancy pourrait être une capitale fixe si la Lorraine, conquise par lui, permettait de recoudre la partie nord et la partie sud de l'État, point d'interrogation, bourguignon. On apprend que c'est pas seulement à cause de ses maladresses militaires, il jouait toujours un coup trop en avance, que Charles le Téméraire va perdre, c'est qu'au mercato des fidélités, Louis XI joue mieux.
C'est-à-dire que si on veut suivre en effet comme fil directeur de cette construction politique la fidélité, le loyalisme, Charles le Téméraire, par sa brutalité, par son manque d'intelligence humaine, hein, il a la conscience de l'État, hein, c'est un souverain très cultivé, mais il n'a pas l'intelligence humaine et il va s'isoler hein, de membres de la cour qui voient dans le roi de France leur souverain lige et donc vont refuser de suivre plus avant Charles le Téméraire dans sa quête. Donc c'est en effet, comme vous le dites, hein, mercato.
Enfin, c'est vous qui envoyez le mot. Prenez vos responsabilités.
Je prends mes responsabilités, mais donc voilà, Louis XI va jouer habilement et rallier notamment Philippe de Comines, bien sûr le plus célèbre d'entre eux, qui explique hein, son transfert par légitimisme.
Les ralliements seront nombreux et l'héritière, la duchesse inexpérimentée, Marie, n'a d'autre choix que de donner suite à la longue liste de réclamations de ses sujets du Nord et du Sud, et d'écrire ainsi au roi de France.
Nous désirons de tout cœur remplir envers vous, avec amour, obéissance et bonne volonté, tous les devoirs qu'il sied. Et s'il est des seigneuries dont moi, Marie, comme votre très humble filleule, je dois me dessaisir, après que votre très noble plaisir aura été de m'en avertir, je le ferai sans contredit. Écrit à Gand, le 18e jour de janvier de l'an 1476. Vos très humbles sujettes et pauvres parentes, Marie de Bourgogne, Marguerite Duchesse.
Le souvenir du duché de Bourgogne, le lieu où il est le mieux conservé en Europe, c'est le palais impérial de Vienne.
Avec Marie de Bourgogne, qu'on vient d'entendre, c'est une autre histoire qui commence. Marie de Bourgogne épouse Maximilien de Habsbourg. Et 1477 n'est pas une fin, mais le début d'une autre aventure politique au nord, puisque Charles Quint descend de cette branche exceptionnelle donc de la maison de France. Et d'ailleurs, c'est assez amusant de voir la titulature de Charles Quint, qui règne sur le monde, mais qui n'oublie pas de rappeler qu'il est aussi seigneur de Salins.
Merci à vous, Élodie Lecuypre Desjardins, un livre très stimulant que je recommande à nos auditeurs, Le Royaume inachevé des Ducs de Bourgogne chez Belin. L'émission a été préparée par Franck Oliva, réalisée par Hervé Marchand avec à la technique Julien Chabassu.